Empowerment, alors c'est pas un mot français déjà, à force de le lire, je suis pas le premier à avoir voulu le traduire, mais si c'est pour parler de capacitation, de mesures empouvoirantes ou d'agentivation, autant garder le mot empowerment, hein. C'est pas non plus un terme de manuel de développement personnel, ça renvoie pas seulement à l'estime de soi, c'est cette idée centrale dans la pensée de l'égalité qu'il est possible pour une population vulnérable de s'octroyer elle-même un pouvoir, une autonomie, un contrôle de sa propre vie sans dépendre de celles et ceux qui l'ont déjà. L'empowerment, vous allez me dire, non mais là c'est encore du grand n'importe quoi, évidemment, puisqu'on ne le traduit pas. Pour qu'un mot ait du sens, encore faut-il qu'on le comprenne, ce mot, qu'on l'utilise, qu'on le transmette. En France, c'est pas vraiment le cas, et ceci explique peut-être cela. En l'occurrence, c'est un mot qui a fait son chemin depuis plus d'un siècle, qui est né de combats féministes et qui s'est propagé petit à petit dans toutes les luttes pour l'égalité et dans un certain nombre de politiques publiques. C'est un mot qui résiste, empowerment, un mot qui résiste aux Français, un mot qui résiste aux rêves d'universalité, parce qu'il implique la pensée de communauté qui cherche par elle-même à se libérer, un mot qui résiste au silence, parce que c'est toujours en fin de compte une histoire de voix, la voix de celles et ceux qui n'ont pas de voix, de pouvoir, qui définissent eux-mêmes la voie de leur émancipation et qui prennent en main leur destin. L'empowerment, c'est bien.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est de celle qui nous donne de la force. En 4 ans et 2 albums, elle s'est imposée comme l'un des grands noms de la pop internationale, mais aussi comme l'incarnation d'une nouvelle génération de femmes qui osent prendre position pour ce en quoi elles croient. Elle est venue nous parler de musique, de combat, de joie. Bonjour Dua Lipa. Merci d'être là.
Thank you so much, bonjour.
Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'avoir de la force ?
Being a woman.
Le fait d'être une femme, ça me donne de la force. Je me sens très forte. Qui je suis, ma sexualité, le fait que je suis moi-même. Il y a ça, et puis il y a ma musique. En fait, j'écris de la musique, des chansons, même si j'ai pas forcément les paroles. Je le fais pour me sentir plus fort, plus solide. Donc il y a ma famille, mes amis, eux aussi me donnent de la force. Et en fait, moi, je veux être solide aussi pour donner de la force à ceux qui sont autour de moi. Voilà.
Et quand est-ce que vous avez compris que la musique avait ce pouvoir-là, celui de donner de la force, de donner confiance ?
C'est lorsque je me suis rendu compte que quand on se répète quelque chose à soi, on commence à y croire vraiment. Et là, je me suis dit, si c'est comme ça, ben moi, tout ce que je veux, c'est transmettre à moi-même et aux autres des messages positifs, des choses qui vont me faire sentir plus fort, plus solide. Il y a cette espèce de réflexion que j'ai en moi. Je me dis, est-ce que je me sens comme la femme alpha ? Et je me dis, oui, parfois, et ça me permet de me sentir plus fort, plus solide. Donc, c'est un petit peu une confiance un peu forcée que je mets dans mes chansons. Mais au final, après, je me dis, pour finir, je me sens vraiment comme une femme alpha à l'arrivée. Et je pense que toute femme mérite de sentir la force dans sa vulnérabilité, dans tous ses aspects de sa féminité.
C'est intéressant parce que si la musique est si puissante, ça donne forcément à l'artiste une forme de responsabilité. Comment est-ce que vous la définiriez, votre responsabilité en tant qu'artiste?
Moi, ma responsabilité, je pense que vraiment avoir un lieu d'expression, c'est une grande chance. Et donc, je me sens responsable, en quelque sorte, responsable d'utiliser ma voix au service de choses, des choses auxquelles je crois. Je pense que, en fait, j'aime bien dire ce que j'ai à dire lorsque je pense que ça va aider des gens. Je pense que c'est un privilège que j'ai, et je me sens très reconnaissante, j'ai une voix, et je l'utilise pour les choses en quelles je crois.
Oui, alors je vous pose la question parce que vous faites partie de celles et ceux qui n'hésitent jamais à prendre position, qu'il s'agisse du Brexit, de politique intérieure, de féminisme. Prendre la parole pour ce en quoi vous croyez, quel sens est-ce que ça a pour vous et pourquoi c'est quelque chose qui vous semble si naturel ?
Je pense que j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Ça doit être toute mon histoire, mon contexte. Il ne faut pas oublier que je viens du Kosovo. Mes parents étaient des réfugiés lorsqu'ils sont arrivés au Royaume-Uni. Et tout ça, ça a laissé une empreinte profonde sur ce que je suis et ce besoin que j'ai de prendre la parole pour parler au nom de ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer. Toutes les choses que j'ai pu comprendre au plan personnel, en vivant au Kosovo d'ailleurs, toutes ces choses que j'ai vécues, elles font ce que je suis aujourd'hui. Et donc, pour cette raison-là, c'est tout à fait évident pour moi que je ne dois pas m'acheter mes mots mots, dire ce que j'ai à dire, quitte parfois à m'attirer des ennuis d'ailleurs.
En quoi vous croyez, au fond? Qu'est-ce qui vous donne toujours des raisons de vous dire que le monde de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui?
Well, I have great hopes for the younger generations.
En fait, j'ai beaucoup d'espoir pour la jeune génération. Je pense que si on peut vraiment répandre des messages d'amour, d'égalité, d'encouragement, donner de la force aux autres et dire aux gens qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont et puis parler pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Moi, vraiment, j'ai confiance dans cette jeune génération qui est très consciente de tout, qui est à l'écoute, à l'affût de tout. Je crois en eux vraiment, ils sont l'avenir. Et ils essayent en permanence de faire passer des messages en faveur de l'égalité, en faveur d'un monde que j'appelle de mes voeux. J'espère que ce sera le monde dans lequel vivront mon frère, ma sœur, un jour mes enfants peut-être, un monde parfait, pourquoi pas.
Alors Dua, les auditeurs de France Inter ne le savent peut-être pas, mais ils vous connaissent. Petit rappel, Dua Lipa dans le désordre, c'est quand même ça. Don't show up, don't come out. C'est ça aussi, avec, je le précise quand même, 2,5 milliards de vues sur YouTube. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Ça. Allez, une dernière, juste histoire de nous faire planer. You want me, I want you baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're relegating. Yeah, yeah, yeah. Votre vie, est-ce que vous avez su que vous voudriez vous consacrer à la musique?
Alors, en fait, bon, je chantais. Quand j'étais petite à la maison, j'ai grandi dans la musique, mon père est musicien, ça a toujours été très important dans ma vie, je prenais des cours de chant, tout ça c'était important. Et puis après, à l'âge de 11 ans, on est retourné au Kosovo, et là, je me suis dit, bon, ça va pas, ici ça va pas, il faut que je retourne à Londres, c'est à Londres que ça se passe, si je veux vraiment percer dans ce métier, il faut que je retourne à Londres, j'aurais pas les mêmes possibilités ici au Kosovo, donc je suis restée 4 ans au Kosovo, et à l'âge de 15 ans, j'ai dit, je repars à Londres, je vais retourner à l'école à Londres, et je vais me concentrer sur la musique. Je sais pas, je me suis dit, c'est mon destin, c'est ça ce que je veux faire. J'avais un amour dingue pour la musique. Je me suis dit, je vais essayer. Je vais aller à l'école. Je vais essayer de mettre des grandes reprises, des reprises d'artistes sur le net. On verra. Voilà. En tout cas, j'ai toujours su que c'était mon destin et que c'était mon chemin de vie.
Mais c'est vrai que la musique a toujours fait partie de votre famille. Vous mentionniez votre père qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait donc Oda. Quel genre de musique est-ce que c'était? Quel genre de musique est-ce qu'il faisait?
Mon père, il était dans un groupe de rock au Kosovo, qui est vraiment très cool. Et puis, c'est vraiment génial. Maintenant, on a un festival au Kosovo. C'était notre grand rêve. C'est vraiment génial pour moi. Passer ces moments-là avec la famille, c'est dingue.
Dua Lipa, très tôt, vous avez commencé à travailler votre voix. Le travail de cette voix, pour vous, s'est passé par quoi ?
Well, I always wanted to sing.
Bon, j'ai toujours voulu chanter. J'ai toujours adoré chanter. Vers 9-10 ans, quand j'allais à l'école, je me souviens, je chantais tout le temps. Puis où chanter à part à la maison, il n'y avait que là que je chantais. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours de chant le samedi. Et mon premier professeur de chant m'a vraiment donné confiance dans ma voix. Bon, j'avais 10 ans, j'avais une espèce de voix grave, un peu rapide. Il m'a dit « Ah, mais c'est intéressant comme voix, c'est vraiment super. » Et de plus en plus, j'ai aimé ça, chanter, me produire en public, ça m'a donné confiance en fait, et c'est comme ça que tout a débuté.
Quel instrument est-ce que c'est pour vous la voix ?
C'est une question intéressante. Je n'avais pas pensé. La musique, le chant, c'est une deuxième nature pour moi. J'ai la chance d'avoir reçu ce don. C'est quelque chose que j'utilise pour me faire du bien, pour être bien avec les autres. Et c'est là que j'exprime ma créativité aussi. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance.
Et qu'est-ce qui fait la beauté d'une voix pour vous ?
Toutes les voix sont belles. C'est la singularité de chaque voix que j'aime. Le son qu'on produit avec notre bouche, c'est incroyable de voir à quel point chaque voix correspond à la personnalité de chacun. Et chacun a son propre cachet. Chaque voix est unique.
Celle qui n'a pas une très belle voix dans cette émission, vous la connaissez peut-être. Dua, c'est la culture et son actualité Castafiore est carrément cata. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 29 juin ?
Je me bats depuis plusieurs mois pour que les conditions de protocole sanitaire en particulier nous amènent à ce modèle résilient.
Et je remets le son.
Festival, à quand le retour à la normale ? Hier se tenait à Bourges le deuxième acte des états généraux des festivals. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a fait le point sur son projet de politique événementielle globale du soutien au secteur. Elle a notamment tenu à rassurer les petits festivals en assurant que l'action de l'État s'adressait à toutes les structures, même celles qui réunissent moins de 300 spectateurs. A rappelé qu'un plan de relance culturelle de 2 milliards d'euros était mis en place et que les aides aux intermittents étaient prolongées. Enfin, elle a défendu le pass sanitaire, qu'il n'était pas une contrainte, mais un outil de retour à la normale.
Terminus, nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RATP.
J'ai rêvé de vous l'espace d'un instant, mais quel espace dans cet instant ? Un peu de poésie dans ce monde de brut. Le Grand Prix Poésie RATP, présidé cette année par Vincent Delerme, vient de révéler son palmarès ouvert à tous les poètes en herbe de 10 à 70 ans. Le concours s'est choisi 10 lauréats parmi les 10 000 œuvres reçues. Ce sont notamment les inspirés Clémence Paradis et Malo Oukoumsing qui s'imposent dans les catégories adultes et enfants. Le prix spécial du jury a aussi été remis à Christophe Hersé qu'on vient de citer. Tous verront leurs poèmes affichés dans plus de 3000 emplacements sur le réseau métro et RER de la RATP cet été. Olé ! Ballet et Nothing Else Matters, groupe mythique de la scène métal. Metallica célèbre cette année le 30e anniversaire de son disque culte, connu sous le nom de Black Album et sorti en 1991. Et pour fêter ça dignement, la bande californienne a demandé à 53 artistes, parmi lesquels Mac DeMarco ou les Français Sébastien et Isia, de revisiter ses chansons pour une Metallica Blacklist d'enfer qui sera révélée dans son intégralité en septembre. Pour l'instant, deux extraits ont déjà été mis en ligne, notamment la reprise du tube Nothing Else Matters par Miley Cyrus accompagné d'Elton John. Rock on.
Prêt, action. Sherry, Sherry lady, going
through a motion, love is where you find. Et enfin, dis-moi oui, chérie, c'est aujourd'hui que débute la 26e édition du festival Chérie Chérie, le plus grand rendez-vous cinématographique français des cultures LGBTQIA+, déployé jusqu'au 6 juillet à Paris, dans les cinémas MK de Beaubourg, Quai de Seine et Bibliothèque. La manifestation propose de découvrir près de 140 films, avec notamment L'Ammonite de l'anglais Francis Lee en ouverture, Tombé pour Ali du lituanien Romas Zabarauskas en clôture, ou encore côté français, Goodman de Marie-Castille Mention-Char, avec Soko, Noémie Merlin et Vincent de Dienne à la Bienne. La chanteuse Dua Lipa, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin, pour revenir sur un destin assez incroyable. Vous êtes née en Grande-Bretagne, Dua, au milieu des années 90. Vos parents d'origine albanaise avaient fui le Kosovo en guerre. Cette guerre, dans quelle mesure diriez-vous qu'elle a hanté votre enfance?
J'ai toujours eu conscience de cette guerre. Mes parents ont toujours été tout à fait directs par rapport à ça. Les parents, les amis, toutes les discussions qu'on a, c'est des discussions très ouvertes. Maintenant, c'est quand je suis retournée au Kosovo que j'ai vraiment pris la mesure des choses. J'avais 11 ans, j'ai commencé à entendre des récits de mes amis les plus proches à l'école qui parlaient des membres de la famille qu'ils avaient perdus, de tout ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre, où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là, où est-ce qu'ils s'étaient cachés, ce qui s'était passé. Et tous ces récits-là, ça m'a touchée. Les entendre de la bouche de vos amis, c'est quelque chose. Me dire, mais voilà, lui ou elle, il avait mon âge, il a vécu tout ça, ils ont perdu quelqu'un, des amis, des proches. Évidemment que ça touche différemment. Et les années que j'ai passées au Kosovo, ces 4 années à ce moment-là, vraiment, j'ai pris conscience de mes racines à ce moment-là. J'ai commencé de l'intérieur à comprendre l'histoire de notre pays, comprendre ce qui s'était passé. Et j'ai vu à ce moment-là à la fois la ville et le pays se reconstruire depuis la base. Et ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré.
Mais pour autant, cette histoire faite de sang, d'exil, de départ à zéro, il est arrivé qu'elle soit lourde à porter, particulièrement pour la petite fille que vous étiez.
Non, je ne dirais pas. Après être du Kosovo, qui a un passé complexe, voilà, ça fait partie de moi. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi dans cette culture-là. Mais je suis quand même assez coriace aussi. Donc moi, j'ai appris de ces expériences-là. En particulier, je me dis que on peut toujours apprendre quelque chose de ce que l'on vit. On peut toujours en tirer une expérience, de l'espoir, quelque chose de positif. Et puis une certaine force aussi. On en fait quelque chose de bénéfique. J'essaie de voir les points forts à retirer de cette expérience par rapport à tout ce qu'on peut vivre en se disant qu'on espère que l'histoire ne se répétera pas.
Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez découvert le pays de vos parents, Dua Lipa? Quelles images vous reviennent immédiatement?
Je dirais un enthousiasme énorme. Il y avait beaucoup de membres de ma famille, des gens que j'avais jamais rencontrés. Je me suis sentie proche toujours, parce qu'on a toujours parlé albanais à la maison. Bon, j'ai appris l'anglais à partir du moment où j'ai été scolarisée. Et puis après, donc l'anglais est devenu ma première langue. Ensuite, ça a été de nouveau l'albanais quand je suis retournée au Kosovo. En tout cas, donc à la fin du CM2, j'étais à Londres à ce moment-là. Je suis repartie au Kosovo et moi, j'ai toujours aimé me lancer, j'ai toujours voulu aller de l'avant. Si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui en plus.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Kosovo, vous n'y êtes pas resté longtemps à cause de la force de votre caractère. À 15 ans, vous repartez vivre au Royaume-Uni, seule, dans l'idée de devenir chanteuse. Comment se fait-il que vos parents vous aient laissé partir si jeune?
Je pense que c'est une question qui se pose encore tous les jours. Comment est-ce que c'est possible une chose pareille? Je sais pas. Enfin, j'ai toujours eu confiance. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Et je sais pas. Ma mère, on était vraiment en confiance toutes les deux. Et donc, lorsque je suis allée à Londres, bon, j'ai essayé de faire les choses bien. J'appelais ma mère au réveil. Ensuite, je la rappelais depuis le bus. Et puis, en arrivant à l'école, et puis en rentrant de l'école, je maintenais le dialogue en permanence. Mais parfois, voilà, on pousse les enfants à se lancer. On leur donne le courage d'être ce qu'ils veulent être, même si ça fait peur. Parfois, c'est quand même une partie très importante du processus.
En l'occurrence, ils ont eu raison de vous faire confiance, Dua Lipa, parce que tout s'est enchaîné très vite. Vous avez sorti votre premier disque à 22 ans et tout de suite le succès a été au rendez-vous. Quand tout arrive si rapidement, comment on fait pour ne pas perdre pied, pour garder la notion du temps, pour profiter de l'instant présent?
Je pense, et c'est ce que je dis toujours, il y a mes amis, ma famille, la vie à la maison, elle n'a pas beaucoup changé. c'est toujours la même chose. Donc j'ai ce métier complètement dingue qui va à toute vitesse. J'en parle quand je rentre à la maison, mais je reste moi-même, celle que j'ai toujours été. Et ça, ça n'a jamais changé. C'est ce qui permet de garder les pieds sur terre, même quand tout va très très vite et qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qui permet de continuer à partager avec ceux qui sont là, qui ont toujours été là depuis le début et même avant.
Alors je propose qu'on y saute à pieds joints dans l'instant présent avec Love Again, dernier extrait de votre album Future Nostalgia. Vous êtes sur France Inter avec Dua Lipa. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do.
Alors c'est difficile à expliquer, mais disons qu'on est quelque part entre la Queen, Tomb Raider et un personnage de Jem et les hologrammes. L'œil biche, le visage de la tour, le cheveu imprévisible, la chanteuse Dua Lipa. Invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour parler de son, de rythme et de temps, parce qu'après tout, votre dernier album s'appelle Future Nostalgia. Est-ce qu'il s'agit d'une nostalgie qui vient ou est-ce que vous êtes nostalgique du futur, tiens?
Well, that's an interesting way to
c'est intéressant
it, I guess.
Comme façon de voir les choses.
Là
encore,
so
moi, je crois en la dualité. Peut-être parce que justement j'ai ce passé, parce que je viens de deux endroits à la fois. En tout cas, Future Nostalgia, c'était reprendre toutes les influences de mon enfance, la musique que j'écoutais à la maison avec les parents. Je pensais que c'était mes influences, mais en fait, c'est des choses que j'écoutais tout simplement parce que les parents écoutaient cette musique à la maison. Donc, je voulais évoquer ce son, tous ces souvenirs que j'ai aimés. Je voulais les mettre dans ce monde moderne. Actuel. Je voulais faire passer cette euphorie qu'on a lorsqu'on entend tout à coup une chanson qu'on aime, qu'on met la musique à fond, qu'on a envie de chanter. Et c'était ça ce que je voulais faire vivre avec cet album dans ce monde moderne.
C'est vrai, en tout cas, que la nostalgie sur le plan musical, elle passe chez vous par des sonorités qui évoquent la pop des années 80, ce son des années 80. Qu'est-ce qu'il caractérise pour vous concrètement?
Je dirais que c'est une espèce de son un peu clinquant. Disco, qu'on met un peu au goût du jour. C'est une évocation de plein de sons assez éclectiques, des inspirations qui vont de Blondie, Jamiroquai, David Bowie, Prince, des tas de choses que j'ai aimées, que j'adore. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux m'approprier ça? Comment est-ce que je peux créer quelque chose, y compris lyrique parfois, ce que j'ai fait? C'est tout le contexte qui m'a rendu nostalgique.
Parmi toutes vos influences, il y a eu des chanteuses aussi, comme Pink, dont vous connaissez, paraît-il, le deuxième album Misunderstood par cœur. La découverte de ce disque, quel choc est-ce que ça a été pour vous?
J'étais fascinée par Pink. Je la trouvais vraiment géniale. Elle était elle-même. Elle allait un peu à contre-courant. Elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Puis j'adorais sa musique. Lorsque j'ai commencé à l'écouter vraiment, j'ai adoré à la fois l'artiste, le visuel, les vidéos, les paroles. J'imaginais évidemment des situations que j'avais jamais vécues puisque j'étais encore petite. Mais oui, aller à une partie, à une soirée, et comment j'avais envie. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment frappée chez elle.
Et puis, on parlait tout à l'heure d'empowerment, de ces musiques, de ces artistes qui vous donnent de la force. À ce titre, quel modèle est-ce qu'elle a été, Pink?
Well, Pink, I feel like defines to me the female alpha.
C'est pour le coup, elle, c'est vraiment la femme alpha. Je me suis inspirée d'elle pour trouver la force en moi. Il y a beaucoup d'artistes, des femmes qui m'ont donné ce sentiment que j'étais forte. Et donc, j'ai été influencée par elle de ce point de vue. Même chose pour Nelly Furtado ou Gwen Stefani ou Alicia Keys. C'est ces femmes qui ont cette force de femme qu'elles m'ont communiquée. Et vraiment, ça a été évident pour moi. Je me suis dit, voilà, moi, c'est ça ce que je veux faire. C'est ça ce que je veux vivre. Et c'est venu de là, vraiment.
D'ailleurs, mettre en valeur le travail d'autres femmes, c'est ce que vous ne cessez de faire, Dua Lipa. Aujourd'hui, dans quelle mesure diriez-vous que la place des femmes dans l'industrie de la musique est en train d'évoluer? On en parlait dernièrement avec Charlene Spiteri du groupe Texas.
Moi, je me sens vraiment très optimiste par rapport à ça. Regardez, il y a seulement deux ans encore. À l'époque, on disait, si seulement il y avait plus de femmes sur scène, dans les festivals, un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a des femmes exceptionnelles. Et ça, c'est très encourageant de voir comment les choses évoluent récemment. Elles sont là de plus en plus souvent, de plus en plus partout dans l'industrie musicale. Il y en a de plus en plus qui sont PDG, d'autres, elles sont directrices de labels. Donc, ça va dans le bon sens, c'est bien, je pense, vraiment. Et il n'en reste pas moins aussi qu'il y a vraiment des hommes remarquables dans ce métier. Et c'est une bonne chose. Hein. Le sujet, comme toujours, c'est essayer de trouver le même espace à la fois pour les hommes et pour les femmes.
Mais le poids du patriarcat et de la misogynie, en quoi avez-vous le sentiment d'y avoir été confronté, vous, depuis vos débuts?
Je pense que lorsqu'on est jeune, on arrive en studio. C'est la première fois que j'ai travaillé avec une productrice, c'était avec The Blessed Madonna. Et avant ça, très souvent, il y avait beaucoup d'hommes en studio. Et moi, en tant que femme, je me disais, bon, il faut que je montre un peu de quoi je suis capable. Il fallait que je leur dise, voilà, c'est moi qui ai écrit les titres, c'est ma musique, voilà ce que j'ai à dire. Je me disais, il faut que je prouve peut-être plus que les autres, parce que je suis la seule fille dans la salle. Il fallait que je montre que je méritais d'être là dans ce studio. Et bon, c'est intéressant, effectivement, j'ai été confrontée de différentes manières. Il y a toujours un petit peu la misogynie des gens qui disent, ah ben voilà, cette femme, si elle fait de la pop, c'est forcément qu'elle est un produit. Parce que si on ne chante pas une ballade, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment quelque chose à dire en tant que femme. Et je reviens à toutes ces artistes que j'aime, Nelly Furtado, Pink, les autres. Je m'appuie sur elles et je dis, il faut un petit peu, si vous voulez, abandonner cette stigmatisation qui fait que les femmes, quand elles font de la pop, on les regarde un petit peu de travers. Bon, on lutte encore un peu contre ça, c'est vrai. On avance à petits pas, mais on avance.
Mais c'est vrai qu'écrire ses propres textes, ce que vous faites, c'est une façon de garder le contrôle aussi. Dua Lipa, dans votre vie, faites de rendez-vous, de concerts, de promos, de créations, une vie où tout se doit d'être réglé, anticipé. Qu'est-ce que vous ne contrôlez pas ?
To be honest,
très franchement,
kind of very little that I don't control.
Il n'y a pas grand-chose que je contrôle
when
pas.
It comes to my work, I like to be at the forefront. Pour ce qui est
de mon métier, j'aime bien avoir la main sur les choses.
Day,
je me rends compte qu'au final, les choses se font avec mon nom à moi. Il faut quand même que je sois fière de ce que je fais. Et bon, j'ai une équipe absolument géniale. C'est comme si on avait un seul cerveau à nous tous, parce que vraiment, on travaille ensemble. Donc, je dis clairement ce que je veux faire. Mon positionnement en tant qu'artiste, je l'explique bien. Ça, vraiment, c'est important. Mais en même temps, je pourrais rien faire sans mon équipe, sans les gens qui sont avec moi. Donc, voilà, je contrôle de tout ce qui se passe. J'ai le contrôle sur tout ce qui se passe, mais je sais bien que j'ai pas les compétences pour tout, type organiser une tournée, ça je sais pas faire. Par contre, je sais ce que je veux de cette tournée, donc j'ai une confiance absolue dans l'équipe qui travaille avec moi. Je sais qu'ils peuvent faire les choses, et pour le reste, c'est moi qui assure.
Mais quelquefois dans la vie, c'est bien de perdre le contrôle, non ?
I think when you're out dancing,
lorsqu'on danse, j'irai. Moi, c'est là que j'aime bien perdre le contrôle, hein. Dans un festival ou d'autres choses aussi. Et puis aussi, quand je suis en tournée, sur scène, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et là, on perd le contrôle dans le meilleur sens du terme. Là, on se plonge dans la musique et puis c'est tout. C'est un super moment. On est là sur scène. Et ça devient absolument génial. Et là, c'est le moment où on peut vraiment lâcher prise.
Alors, on va danser et on va lâcher prise. Dua Lipa, merci infiniment.
Thank you. I had a lot
merci,
fun.
J'ai
Thank
adoré.
So
merci. Hein.
Merci, Dua Lipa, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, la très douée Hélène Joguet. Je rappelle que votre deuxième album, Future Nostalgia, est évidemment disponible et qu'il a de quoi continuer à nous faire danser tout l'été. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça, quand même. Vous, avec Angèle.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi.
Dua Lipa et Angèle sur France Inter et tout de suite les médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Et bah salut Augustin, à demain.